les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Les yeux ont des oreilles. Une émission de la rédaction. Bonsoir et bienvenue dans le 59e épisode de Les yeux ont des oreilles. Ce soir, c'est l'amour qui est à l'honneur. Aux yeux ont des oreilles, nous avons choisi pour vous des textes qui parlent d'amour et qui font vibrer notre cœur un peu plus fort. De l'éducation sentimentale à Call Me By Your Name, de Thérèse et Isabelle à L'écume des jours, en passant par La promesse de l'aube et La vagabonde, l'amour semble dessiner un fil invisible entre les œuvres que nous aimons. Comme si, en se répondant entre elles et en faisant écho à nos interrogations intérieures de lecteurs, ces relations fictives, construites, écrites, nous aidaient un peu mieux à aimer et à vivre. Ce soir, nous vous proposons d'être un peu comme Madame Bovary dévorant ses keepsakes et de rêver, nous aussi, d'amour. Au fil des pages, au fil des voix, vous découvrirez ou redécouvrirez sûrement des histoires connues ou inconnues, des rimes, des vers, des bribes de vie, des intonations qui nous disent aussi différentes manières d'aimer, de l'amitié à l'amour, de la fascination à la mort. Vous êtes bienvenue sur Transistor, bienvenue dans l'émission qui vous immerge dans la littérature, bienvenue dans Les yeux ont des oreilles.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie.
Quoi de plus romantique que de commencer notre voyage ensemble sur la Seine? Le jeune narrateur de notre texte, Frédéric Moreau, vient d'embarquer sur la ville de Montereau, un petit bateau à aube qui le ramène de la ville Lumière à Nogent-sur-Seine, où réside sa mère. Quand soudain, ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne, dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête, il fléchit involontairement les épaules et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendait très bas et semblait presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne, se découpait sur le fond de l'air bleu. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre, puis il se planta près de son ombrelle, posée contre le banc, et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait, et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Une négresse coiffée d'un foulard se présenta, en tenant par la main une petite fille déjà grande. L'enfant, dont les yeux roulaient les larmes, venait de s'éveiller. Elle la prit sur ses genoux.
Mademoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle dût sept ans, bientôt. Sa mère ne l'aimait plus. On lui pardonnait trop ses caprices.
Et Frédéric se réjouissait d'entendre ces choses, comme s'il eût fait une découverte, une acquisition. Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être. Elle avait ramené des îles cette négresse avec elle? Cependant, Un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, s'en couvrir les pieds, dormir dedans. Mais, entraîné par les franges qui glissaient peu à peu, il allait tomber dans l'eau. Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit
« Je vous remercie, monsieur. »
Leurs yeux se rencontrèrent.
« Ma femme, es-tu prête ?»
cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l'escalier. Gustave Flaubert, L'éducation sentimentale, première partie. Ainsi donc naît l'amour dans les regards qui se croisent et se cherchent. Alain Fournier s'en souviendra peut-être d'ailleurs, dans Le Grand Maulne, offrant une scène bucolique d'amour au bord de l'eau entre Maulne et Yvonne de Galet, où le temps semble se diffracter lui-même. Dans cet espace large et ouvert de la rencontre, passons plutôt à celui étroit de la prison. Par un poème d'amour maintenant, ou plutôt un long chant d'amour, pour reprendre le titre de court-métrage du même nom. En 1942, le prisonnier Jean Genet, qui n'est pas encore auréolé de gloire dans les milieux littéraires parisiens, écrit un long poème qu'il dédie à la mémoire de son ami Maurice Pilorge, dont le corps et le visage radieux hantent ses nuits sans sommeil. Nulle certitude qu'il eut véritablement croisé ce Maurice Pilorge, cambrioleur condamné à mort en 1939 à Saint-Brieuc pour avoir tué son amant. Peu importe, Genet en fait le socle d'une mythologie personnelle, le point de départ d'un chant à ses amours.
Et on va lire du coup un extrait choisi du condamné à mort. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve.
Efflore sous mon corps quand sente que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup.
Ô viens mon beau soleil, ô viens ma nuit d'Espagne, arrive dans mes yeux qui seront morts demain.
Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici battre notre campagne.
Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire.
Accueillir la rosée où le matin va boire, le clocher peut sonner,
moi seul je vais mourir. Ô viens mon ciel de rose,
ô ma corbeille blonde,
visite dans ta nuit ton condamné à mort.
Arrache-toi la chair, tue, escalade, mort, mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde.
Pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits, des océans, couvre-toi de lumière.
La voix d'Hélène Martin chantant Le condamné à mort de Jean Genet à la fin des années 60. Je t'aime, mais tu n'as rien su par ma faute, dit la rose au petit prince. De l'espace carcéral, plongeons maintenant dans les tourments de l'amour. Le 28 janvier dernier était célébré le 150e anniversaire de la naissance de l'écrivaine Colette. L'écrivaine a fait de l'amour un motif récurrent de son œuvre. Voici donc ici quelques pages d'amour de l'écrivaine de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Un grand merci à l'Académie française, et particulièrement au service France Mémoire de l'Institut de France, de nous avoir envoyé cette sélection pour préparer cette émission.
Mon Dieu, que j'étais jeune et que je l'aimais cet homme-là, et comme j'ai souffert. Ceci n'est pas un cri de douleur, une lamentation vindicative, non. Je soupire cela, quelquefois, sur le ton dont je dirais « Si vous saviez comme j'ai été malade il y a 4 ans ». Et quand j'avoue, j'ai été jalouse jusqu'à vouloir tuer et mourir. C'est à la manière des gens qui racontent « J'ai mangé du rat en 70 ». Ils s'en souviennent, mais ils n'en ont gardé que le souvenir. Ils savent qu'ils ont mangé du rat, mais ils ne peuvent plus ranimer en eux le frisson de l'horreur ni la fièvre de la famine. Après les premières trahisons, après les révoltes et les soumissions d'un jeune amour qui s'opiniâtrait à espérer et à vivre, je m'étais mise à souffrir avec un orgueil et un entêtement intraitables et à faire de la littérature. Un extrait de « La vagabonde » de Colette.
Toujours de Colette, cette fois-ci, la naissance du jour. Demain, je suspendrai l'aube rouge sur les tamaris mouillés de roses salines, sur les faux bambous qui retiennent, à la pointe de chaque lance bleue, une perle. Le chemin de côte qui remonte de la nuit, de la brume et de la mer. Et puis le bain, le travail, le repos. Comme tout pourrait être simple, aurais-je atteint ici ce que l'on ne recommence point ? Tout est ressemblant aux premières années de ma vie, et je reconnais peu à peu, au rétrécissement du domaine rural, au chat, à la vieille chienne vieillie, à l'émerveillement, à une sérénité dont je sens de loin le souffle, miséricordieuse humidité, promesse de pluie réparatrice suspendue sur ma vie encore orageuse, je reconnais le chemin du retour. Un extrait donc de Colette, la naissance du jour, et pour terminer donc cette sélection autour de Colette, un petit dialogue de bête quand même, toujours de Colette, l'amour cette fois-ci conjugué au monde animal, d'un côté la petite chienne, de l'autre Toby chien, voici un étonnant dialogue de bête.
La petite chienne, étonnée de n'entendre point l'explosion admirative qui l'accueille partout, répétant
« Je suis la toute petite chienne, si jolie. Je ne pèse que 900 grammes. Mon collier est en or, mes oreilles sont en satin noir, doublées de caoutchouc luisant. Mes ongles brillent comme des becs d'oiseaux et... »
Apercevant Toby chien.
« Oh, quelqu'un !»
Silence.
« Il est bien !»
Mine, courbette, effleurement de musée.
Toby comme chien. Elle... Comme elle est petite.
Monsieur, ne m'approchez pas.
Pourquoi ?
Oh, je ne sais pas, ma maîtresse sait pourquoi. Elle n'est pas là. Elle est restée dans l'autre chambre.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 11 mois.
Récitant.
J'ai 11 mois, ma mère a été prise de beauté à l'exposition canine. Je ne pèse que 900 grammes et...
Vous l'avez déjà dit. Comment faites-vous pour être si petite ?
La petite chienne, très bavarde et coquette.
C'est de naissance. Je tiens dans un manchon. Vous avez vu mon nouveau collier ? Il est en or.
Et ça, qui pend après ?
C'est la médaille de ma mère, monsieur. Je ne la quitte jamais. J'arrive du palais des glaces. J'ai eu un succès fou. Figurez-vous que j'ai voulu mordre un monsieur qui parlait mal à ma maîtresse. Ce qu'on a ri.
Elle se tortille et pousse des cris d'oiseaux. Toby chien à part.
Quelle drôle de créature. Est-ce une chienne, vraiment ?
Il la flaire.
Oui, elle sent la poudre de riz. Mais c'est une chienne tout de même.
Oh.
Asseyez-vous un instant. Vous me faites mal au cœur en remuant comme ça.
Je veux bien.
Elle se couche en lévrier miniature, les pattes de devant croisées pour montrer la finesse de ses doigts.
Vous étiez tout seul ici ?
Toby chien regarde vers le piano.
Tout seul de chien, oui. Pourquoi ?
Ça sent drôle.
Ça sent le chat, sans doute.
Un chat ? Qu'est-ce qu'un chat ? J'en ai jamais vu. On vous laisse tout seul dans une chambre ?
Ça arrive.
Et vous ne criez pas ? Moi, dès que je suis seul, je crie. Je m'ennuie, j'ai peur. Je me trouve mal et je mange les coussins.
Et on vous fouette.
La petite chienne outrée.
Mais qu'est-ce que vous dites ? Vous perdez la tête, j'imagine.
Soudain aimable.
Ce serait dommage. Vous avez de beaux yeux.
N'est-ce pas ? On les voit beaucoup. Ils sont grands et puis ils avancent. Elle dit que j'ai des yeux de langouste. Elle dit encore ses beaux yeux de phoque, ses yeux dorés de crapaud.
Qui ? Elle.
Toby chien, simple.
Elle.
Je ne comprends pas tout ce que vous dites, mais vous êtes si sympathique. Qu'est-ce que vous faites ce soir ?
Mais je dîne.
Mon Dieu, je pense bien. Je voulais savoir si on reçoit chez vous, si vous sortez.
Non, je suis déjà sortie.
En voiture ?
À pied, naturellement.
Comment ? Naturellement ? Moi, je ne sors guère qu'en voiture. Montrez le dessous de vos pattes ? Quelle horreur ! On dirait de la pierre à repasser les couteaux. Regardez les miennes. Satin dessus, velours dessous. Colette, une visite dans Dialogue de bête.
Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette.
Je me fais chevaucher la chaussette, je crois, c'est ce qu'on entendait à l'instant, et nourrir le hérisson. C'était Les Nuits d'une demoiselle, chanson grivoise de Colette Renard. D'ailleurs, dans un instant, nous entendrons Les Nuits d'un damoiseau. Je suis sûr que vous ne voudrez pas rater ça et que vous resterez avec nous. Mais attendez, est-ce que vous entendez cet air de jazz au loin?
Oui ?
Dizis.
Venez, je vous présente.
La moyenne des filles était présentable. L'une d'elles portait une robe en lainage vert amande, avec de gros boutons en céramique dorée, et, dans le dos, un empiècement de forme particulière.
Présentez-moi surtout à celle-là,
dit Colin. Isis le secoua pour le faire tenir tranquille.
Voulez-vous être sage à la fin ?
Il en guettait déjà une autre et tirait sur la main de sa conductrice.
C'est Colin,
dit Isis.
Colin, je vous présente Chloé.
Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du comme des gratouillis de beignets brûlés.
Bonjour,
dit Chloé.
Bonjour, vous êtes arrangé par Duke Ellington ?
Demanda Colin. Et puis, il s'enfuit parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une stupidité. Chloé, non, Chick le rattrapa par un pan de veste.
Où vas-tu comme ça? Tu ne vas pas t'en aller déjà? Regarde!
Il tira de sa poche un petit livre relié en marocain.
C'est l'original du paradoxe sur le dégulis de Patre.
Tu l'as trouvé quand même?
Dit Colin. Puis, il se rappela qu'il s'enfuyait. Et s'enfuit. Alice lui barrait la route.
Alors, vous vous en allez sans avoir dansé une seule petite fois avec moi?
Dit-elle.
Excusez-moi,
dit Colin.
Ami, je viens d'être idiot et ça me gêne de rester.
Pourtant, quand on vous regarde comme ça, on est forcé d'accepter.
Alice,
gémit Colin.
En
la lassant et en frottant sa joue contre les cheveux d'Alice.
Quoi, mon vieux Colin?
Zut, zut, zut et bran, peste diable brouf. Vous voyez cette fille-là?
Chloé?
Vous la connaissez?
Dit Colin.
Je lui ai dit une stupidité, c'est pour ça que je m'en allais.
Il n'ajoutait pas qu'à l'intérieur du thorax, ça lui faisait comme une musique militaire, allemande, où l'entendait que la grosse caisse.
N'est-ce pas qu'elle est jolie ?
Demanda Alice. Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns, l'air heureux et sa robe n'y était pour rien.
Je n'oserais pas,
dit Colin. Et puis, il lâcha Alice et alla inviter Chloé. Elle le regarda. Elle riait et mit la main droite sur son épaule. Il sentait ses doigts frais sur son cou. Il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit transmis du cerveau le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Chloé le regarda encore. Elle avait les yeux bleus. Elle agita la tête pour repousser en arrière des cheveux frisés et brillants et appliqua d'un geste ferme et déterminé sa tempe sur la joue de Colin. Il se fit un abondant silence alentour. Et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre.
Boris Vian, L'écume des jours, 1946.
À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal.
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi, j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche.
La joyeuse énergie de « Fais-moi ma Johnny » de Boris Vian, vous avez reconnu cette folle énergie, une folle énergie qui n'est pas sans évoquer le tourbillon d'amour qui règne dans la princesse de Clèves.
Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença et, comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était aussi difficile de voir Madame de Clèves pour la première fois, sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître.
Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. Première partie. Des premiers sentiments de l'amour chez Madame de Clèves, glissons vers ceux d'Elio dans Appelle-moi par ton nom ou Call me by your name, roman d'André Anciman, à partir duquel Lucas Guadagnino a créé la version filmée en 2017.
J'avais appris à laisser ma porte-fenêtre entrouverte et j'étais étendue sur mon lit, vêtue de mon seul maillot de bain, le corps entier en feu. En feu comme une prière qui dit « s'il te plaît, dis-moi que je me trompe, que j'ai imaginé tout ça, que cela ne peut pas être vrai pour, toi aussi. Et si c'est vrai pour toi aussi, alors tu es l'homme le plus cruel qui soit. » Cet après-midi-là, il finit bel et bien par entrer dans ma chambre sans frapper, comme appelé par mes prières. Et il demanda pourquoi je n'étais pas avec les autres à la plage. Et tout ce que je pus songer à dire, mais ne pus me résoudre à dire, ce fut « pour être avec toi ». Pour être avec toi, Oliver, avec ou sans mon maillot de bain. Pour être avec toi, sur mon lit, dans mon lit, qui est mon lit pendant les autres mois de l'année. Fais ce que tu veux de moi. Prends-moi. Demande si je le veux, et tu verras quelle réponse tu recevras. Mais ne me laisse pas dire non. J'avais déjà désiré des garçons de mon âge, et couché avec quelques filles. Mais avant de l'avoir vu descendre du taxi et entrer chez nous, et pendant un bon moment après, il ne m'aurait jamais semblé possible que quelqu'un de si parfaitement à l'aise avec lui-même pût désirer m'offrir son corps autant que je brûlais de lui abandonner le mien. Et pourtant, 2 semaines après son arrivée, tout ce que je désirais chaque nuit, c'était l'entendre sortir de sa chambre, non par la porte du palier, mais par la porte-fenêtre qui donnait sur notre balcon. Je voulais entendre celle-ci s'ouvrir, entendre ses espadrilles sur le balcon, puis le bruit de ma porte-fenêtre, qui n'était jamais complètement fermée, lorsqu'il la pousserait et entrerait dans ma chambre, après que tous les autres seraient allés se coucher. Et il se glisserait sous mon drap, me dévêtir et sans un mot, et après m'avoir amené à le désirer, plus qu'il ne me semblerait que je ne désirais jamais un autre être humain. Très doucement, et avec l'affection qu'un juif témoigne à un autre juif, pénétrerait en moi, très doucement. Après avoir entendu les mots que je me répétais depuis des jours. « S'il te plaît, ne me fais pas mal », qui signifiait « fais-moi aussi mal que tu veux ».
Que c'est bon d'être d'un oiseau car le soir, dans mon petit lit, quand Mars à Vénus fait son chaud, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la mignardise, je me fais essorer le pinceau, je me fais redresser la tour de Pise, je me fais souffler dans le manchot, je me fais mousser le créateur, je me fais secouer le goupillon, c'est là qu'elle cria vive l'ampleur en sortant la mine du crayon, je me fais plumer le caribou, chatouiller l'étendard sacré, si en zing était mes dessous, c'est l'angélus qu'on entendrait. Je me fais jouer du trombone, j'aimerais glisser le dieu rat. J'aurais dû éviter la bonne.
Après les nuits d'une demoiselle, c'était donc les nuits d'un damoiseau, on espère que ça vous a plu, par Robert Fenech. Partons maintenant en direction d'une zone rurale, de la campagne, en compagnie de notre géographe préféré, Yulen, du côté de chez Maupassant.
Et je voudrais tout d'abord dédicacer ce texte à toute l'année 2019 et la cagne. Elle écoutait l'oiseau, perdu dans une extase. Elle avait des désirs infinis de bonheur, des tendresses brusques qui la traversaient, des révélations de poésie surhumaine et un tel amollissement des nerfs et du cœur qu'elle pleurait sans savoir pourquoi. Le jeune homme la serrait contre lui maintenant. Elle ne le repoussait plus, n'y pensant pas. Le rossignol se tut soudain. Une voix éloignée cria
« Henriette !»
Ne répondez point,
dit-il tout bas.
Vous feriez envoler l'oiseau.
Elle ne songeait guère à répondre. Ils restèrent quelque temps ainsi. Madame Dufour s'était assise quelque part, car on entendait vaguement, de temps en temps, les petits cris de la grosse dame que lutinait sans doute l'autre canotier. Tout était calme aux avions. L'oiseau se remit à chanter. Il jeta d'abord trois notes pénétrantes, qui semblaient un appel d'amour. Puis, après un silence d'un moment, il commença d'une voix affaiblie des modulations très lentes. Une brise molle glissa, soulevant un murmure de feuilles. Et dans la profondeur des branches, passaient deux soupirs ardents qui se mêlaient au chant du rossignol et au souffle léger du bois. Une ivresse envahissait l'oiseau, et sa voix, s'accélérant peu à peu comme un incendie qui s'allume ou une passion qui grandit, semblait accompagner sous l'arbre un crépitement de baisers. Puis le délire de ce gonzier se déchaînait éperdument. Il avait des pâmoisons prolongées sur un trait, de grands spasmes mélodieux. Quelquefois, il se reposait un peu, filant seulement deux ou trois sons légers qu'il terminait soudain par une note suraiguë. Ou bien il partait d'une course affolée, avec des jaillissements de gamme, des frémissements, des saccades, comme un chant d'amour furieux, suivi par des cris de triomphe. Mais il se tut, écoutant sous lui un gémissement tellement profond que l'on prit pour l'adieu d'une âme. Le bruit s'en prolongea quelque temps et s'acheva dans un sanglot.
C'est modulation plaintive d'oiseau. Très très bon bruitage.
Ah mais ça c'est... On reconnaît la qualité du bruiteur. Hein.
Semble faire écho à la fuite d'Albertine, aimée du narrateur dans la recherche du temps perdu. Passons donc des oiseaux au chant plaintif d'Albertine. Mademoiselle Albertine est partie. Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie, il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette séparation sans s'être revue était justement ce que je désirais. En comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle me privait de réaliser, je m'étais trouvé subtil. J'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots, « Mademoiselle Albertine est partie », venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je ne pouvais pas y résister plus longtemps. Ainsi, ce que je n'avais cru n'être rien pour moi, c'était simplement toute ma vie. Comme on s'ignore, il fallait faire cesser immédiatement ma souffrance. Tendre pour moi-même, comme ma mère pour ma grand-mère, mourante, je me disais, avec cette même bonne volonté qu'on a pour ne pas laisser souffrir ce qu'on aime, « Et une seconde fois, une seconde de patience, on va te trouver un remède. Sois tranquille, on ne veut pas te laisser souffrir comme cela. » Oui, tout à l'heure, avant l'arrivée de Françoise, J'avais cru que je n'aimais plus Albertine. J'avais cru ne rien laisser de côté. En exastanaliste, j'avais cru bien connaître le fond de mon cœur. Mais notre intelligence, si grande soit-elle, ne peut apercevoir les éléments qui la composent et qui restent insoupçonnés tant que l'état volatile où ils subsistent la plupart du temps, un phénomène capable de les isoler, ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. Je m'étais trompé en croyant voir clair dans mon cœur.
La voix de la Callas chantant dans l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck. Profitons-en pour signaler à nos auditeurs lyonnais la tenue du 18 mars 2023 à 20h d'un concert à la Bourse du Travail de Lyon au cœur des grandes écoles, dirigé par Jean-François Le Maréchal.
Et toutes les informations sont bien sûr à retrouver sur le site du cœur de l'ENS de Lyon. Voyage maintenant en direction de Violette Neduc, Thérèse et Isabelle.
Isabelle me tira en arrière. Elle me coucha en travers de l'édredon. Elle me souleva. Elle me garda dans ses bras. Elle me sortait d'un monde où je n'avais pas vécu, pour me lancer dans un monde où je ne vivais pas encore. Les lèvres entr'ouvrirent les miennes, souillèrent mes dents que je serrais. La langue trop charnue m'effraya. Le sexe étrange n'entra pas. J'attendais, absente et recueillie. Les lèvres se promenaient sur mes lèvres. Des pétales m'époustaient. Mon cœur battait trop haut et je voulais écouter ce scellé de douceur, ce frôlement neuf. Isabelle m'embrasse, me dis-je. Elle traçait un cercle autour de ma bouche. Elle encerclait le trouble. Elle mettait un baiser frais dans chaque coin. Elle déposait deux notes piquées. Elle revenait, elle hivernait. Mes yeux étaient gros d'étonnement sous mes paupières. La rumeur des coquillages était trop vaste. Isabelle continua. Nous descendions, nœud après nœud, dans une nuit au-delà de la nuit du collège, au-delà de la nuit de la ville, au-delà de la nuit du dépôt des tramways. Elle avait fait son miel sur mes lèvres. Les sphinx s'étaient rendormis. J'ai su que j'avais été privée d'elle avant de la rencontrer. Elle écoutait ce qu'elle me donnait. Elle embrassait de la pluie buée sur une vitre. Isabelle renvoya ses chevelures, sous laquelle nous avions eu abri. Une dormeuse toussa, essaya de nous séparer. Déjà, elle me retenait. Déjà, j'étais retenue. Déjà, nous nous tourmentions, mais le pied jovial qui touchait le mien, la cheville qui se frottait à ma cheville nous rassurait. Ma chemise de nuit m'effleurait, pendant que nous nous étreignions et que nous tanguions. Nous avons cessé. Nous avons retrouvé la mémoire du dortoir. Nous avons écouté la nuit. Isabelle alluma. Elle voulait voir mon visage. Je lui repris la lampe. Isabelle, emportée par une vague, glissa dans le lit. Remonta, piqua du visage, me serra contre elle. Je voulais que, serrée sur mon cœur béant, Isabelle y rentrât. L'amour est une invention épuisante. Isabelle, Thérèse, disais-je en pensant pour m'habituer à la simplicité magique des deux prénoms. Elle emmitoufla mes épaules dans l'hermine d'un bras. Elle mit sa main dans le sillon entre les seins, sur l'étoffe de sa chemise de nuit. Enchantement de ma main au-dessous de la sienne, de ma nuque, de mes épaules vêtues de son bras. Pourtant, mon visage était seul. J'avais froid aux paupières. Isabelle l'a su. Pour me réchauffer partout, sa langue s'impatientait contre mes dents. Je m'enfermais, je me barricadais à l'intérieur de ma bouche. Elle attendait. C'est ainsi qu'elle m'a appris à m'ouvrir, à m'épanouir. La muse secrète de mon corps, c'était elle. Sa langue, sa petite flamme, charmait mon sang, ma chair. Je répondis, je provoquais, je combattis. Je me voulus plus violente qu'elle. Le claquement des lèvres, le chuintement de la salive ne nous concernaient plus. Nous nous acharnions, mais si à l'unisson, nous redevenions lentes, méthodiques. Le breuvage prenait de l'épaisseur. Nos lèvres, après tant de salive échangée, se désunirent malgré nous. Isabelle se laissa tomber au creux de mon épaule. « Un train, » dit-elle, « pour reprendre haleine. On rampe dans mon ventre. J'ai peur. J'ai une pieuvre dans le ventre. » Isabelle dessinait avec mon doigt simplifié sur mes lèvres la forme de ma bouche. Le doigt tomba de mes lèvres dans mon cou. Je le saisis. Je le promenais sur mes cils. Ils sont à vous, lui dis-je. Thérèse et Isabelle, Violette le Duc.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer.
Lecture d'une lettre d'Albert Camus à Maria Cazares.
Albert Camus à Maria Cazares, jeudi 16h, 9 février 1950. Ta lettre de mardi soir, je viens de la relire et je voudrais pouvoir y répondre dans le détail. Mais la vérité est que je sais, je suis poursuivi par une seule chose, ton rêve. Quand je l'ai lu, il me semblait qu'une chaleur venait de la page qui me brûlait les joues. J'étais tendu vers toi à mourir. Tu sais, il y a de la cruauté à m'écrire cela. Tout a eu lieu pour toi, en il y a un Dieu pour les innocents, dis-tu. Je dois bien être coupable. Sais-tu, mon amour chéri, que je crains de devenir un obsédé. Je n'ai jamais connu cela, une telle fixation sur un être, un désir si éperdu et si constant. Mes rêveries sont insupportables. Pour ta punition, je t'écrirai un jour, en clair, ce que je pense, sens et rêve sur la question. Cette nuit, j'ai failli le faire. Mon cher amour, mon beau désir, oui, tout cela est dur à vivre. Je comprends tes découragements, tes peines. Si tu ne peux plus écrire, fais ce que tu pourras, je comprendrai toujours. Bien sûr, ce sera triste les jours sans toi, mais j'ai confiance et je t'aime. Ne te laisse pas trop aller cependant vers l'inertie. Ne m'oublie pas complètement. Renonce en tout cas à tes imaginations sur tes platitudes ou sur tes incorrections. Je désire tes lettres et je n'y cherche que la palpitation, la flamme, l'élan. J'y cherche les signes, le secret qui court parfois sur ton beau visage. Elle souriait en écrivant ceci. Voilà ce que je me dis. Tu es intelligente, stupide, fille d'une intelligence qui éclaire brusquement les êtres et leur raison. Et quand il t'arrive d'être ingrate, revêche, c'est que tu dors ou que tu te fermes à tout. Je t'aime tel que tu es, je t'ai choisi une fois pour toutes, et ces petits complexes, j'en ai moi aussi devant toi, doivent disparaître entre nous. Je t'admire, je t'aime et je te désire. Que veux-tu de plus, ingrate? Mais je ne veux plus qu'une chose, te posséder enfin, t'avoir à moi. Mais il faut pour le moment et seulement en rêver. Depuis hier soir, le mistral souffle et me met les nerfs à vif. Ce matin, une merveilleuse journée s'est levée. Le vent avait raclé le ciel jusqu'à une nouvelle peau, brillante et bleue, toute neuve. Le ciel ruisselait de lumière. Les oiseaux ont explosé dans toute la montagne. Et le vent, le dur et merveilleux mistral, qu'il est fort, qu'il est impérieux. Mais il met en même temps en moi une sorte de folie. Que n'es-tu là? Que ne puis-je vraiment te déchirer ma souple, ma noire, ma lustrée? Oh, que je t'aime. Tu es le seul être qui m'ait jamais fait pleurer de bonheur. Ce que tu as mis en moi est un monde de force et de fureur. Viens, viens vite. Tu courras à ma rencontre et tu t'abandonneras au bout de ta course. Le cœur me bat, mon chéri, ma consentante. Je t'aime et je suis heureux de t'aimer. Mais n'écris plus. Aie pitié de celui qui brûle sans trêve et qui attend ta bouche pour pouvoir enfin se désaltérer.
Magnifique lettre hein, d'Albert Camus à Maria Cazares. Il nous en reste très bien encore des voyages à effectuer ce soir. Du côté de l'amour maternel, dans La promesse de l'aube de Romain Gary, dans le magnifique livre du Cantique des Cantiques, l'une des parties les plus poétiques de la Bible, ou Vers l'amour-amitié de Montaigne envers Étienne de la Boétie dans Les Essais. Mais la nuit doit continuer son cours et l'amour vibrer sur nos antennes. Ainsi s'achève donc ce 59e épisode des Yeux ont des oreilles. Nous espérons que cette promenade vous aura ravi autant que nous. Ce soir au micro, il y avait donc avec nous Lucie, Ambre, Yulène, également Marie, bien sûr, et nous saluons toutes celles et ceux qui nous ont aidés à construire des bruitages. Notre programmation spéciale Saint-Valentin continue.
C'est au déflant, on ne dira rien.
Non, mais notre programmation spéciale Saint-Valentin, elle continue au programme dans quelques instants. L'interview d'une spécialiste, hein. Elle publie aux éditions, aux presses de l'ENS, Mes nuits torrides avec Cupidon. C'est dans un court instant, restez bien sûr à notre écoute.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour
dans la haine et puis dans la